السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں
dans ces versets que j'ai récité Allah a décrit les croyants qui, lorsqu'ils sont frappés d'une épreuve, ne faiblissent point dans leur foi. Au contraire, les épreuves renforcent davantage leur foi. Et ils se prosternent davantage devant Dieu. Je vous présente la traduction de ces versets. Il est dit, « Ô vous qui croyez, cherchez le secours d'Allah avec patience et avec la prière. Assurément, Allah est avec ceux qui persévèrent patiemment. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Seulement, vous ne le percevez pas. Et certainement, nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte, de biens, de vie et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui, quand un malheur les frappe, disent « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons ». Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur Seigneur et aussi la miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont bien guidés. Il est évident, à la lumière du premier verset, qu'Allah préconise aux croyants de faire preuve de patience et de prier. Ce sont deux qualités que doivent posséder les croyants, deux qualités qu'ils doivent manifester lorsqu'ils sont frappés d'épreuves et d'adversités. Apparemment, ce sont des paroles toutes simples, mais l'essence de ces paroles sont vastes. Sabr signifie éviter de se lamenter lorsque frappent les malheurs. Cela signifie supporter ces épreuves avec patience sans se plaindre si cette épreuve vient de la part de Dieu. Lorsqu'on est frappé d'un malheur, il arrive qu'on se lamente ou que l'on se plaint, et sous le coup des émotions, l'on peut commencer à récriminer contre Dieu ou prononcer des paroles qui ont des relents d'incroyance. Cela signifie aussi faire preuve de patience et de persévérance. Le troisième sens est de se cramponner au commandement de Dieu et de pratiquer ses commandements et d'éviter les choses qui sont interdites par Dieu. C'est d'éviter ces choses qui nous sont interdites par Dieu. Il y a deux méthodes pour pratiquer à sabr. Cela signifie être endurant, être déterminé et persévérant, et être résolu face à l'adversité et ne point reculer dans sa foi. Cela signifie aussi avoir en tête les commandements de Dieu et les interdictions de Dieu, et de vivre selon ses commandements et de se prosterner tout le temps devant Dieu. Ensuite, Dieu a utilisé le terme « sola » et ainsi, on est encouragé à prier davantage. Dans différents lexiques arabes, le terme « sola » a été utilisé et je vais vous présenter ici un résumé de ses sens. Ici, cela signifie être sérieux dans sa sola. Cela signifie faire d'autres prières à part la sola. Cela signifie être ferme dans sa foi et d'implorer le pardon de Dieu et de se souvenir de Dieu et de chanter ses louanges. Cela signifie aussi envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces versets, on a évoqué les qualités d'un vrai croyant qui doit faire preuve d'une persévérance infaillible face aux adversités. Et il est dit qu'en aucun cas, il ne doit reculer dans ses bonnes œuvres et dans ses excellences morales. Et durant cette période d'adversité, il doit prier davantage et envoyer davantage de salutations sur le saint prophète Mohammed B. S.A.W. Lorsque vous allez implorer l'aide de Dieu et lorsque vous allez faire preuve de patience et de persévérance, sachez alors que cette période d'épreuve, qui est temporaire, va augurer une période de succès. Le dernier soutien d'un croyant est Dieu. Aucun Ahmadi ne peut, na'udhubillah, dire que je ne crois pas en Dieu. Cela ne peut se faire, car si la foi en Dieu diminue, cet Ahmadi n'est plus un Ahmadi. L'Ahmadiyya va disparaître de son cœur, l'islam va sortir de son cœur. Un musulman Ahmadi croit en Dieu et croit en invisible. Il doit aussi avoir la certitude que c'est Dieu qui est son soutien. Suite aux épreuves et aux malheurs subis en raison de l'ennemi, l'intelligence et la foi requis que l'on doit renforcer son lien davantage avec Dieu. Dieu qui est un refuge et Dieu qui protège des épreuves et des malheurs. Lorsque nous allons faire preuve de patience et que nous allons prier, que nous allons nous prosterner devant Dieu, nous devons comprendre que Dieu est celui qui ressent plus d'amour pour son serviteur que la mère qui, par amour, essaye de dissiper les souffrances de son enfant. Et à la fin de ce verset, Allah a déclaré « Inna Allaha ma'as sabirin ». Il nous fait comprendre ici que je vais certainement vous aider. Je vais aider ceux qui seront persévérants et ceux qui vont prier en ce sens. Mais il est dit qu'ici, vous devez faire preuve de persévérance si vous voulez profiter de mon aide. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers moi. Et cela signifie que, face aux adversités, vous ne devez point trébucher. Cela signifie aussi que vous devez vous prosterner en toute sincérité devant Dieu. Voilà donc la responsabilité qui incombe à tout Ahmadi aujourd'hui. Je l'ai dit au cours de mes précédents sermons qu'au Pakistan et dans certains pays arabes et dans certaines régions de l'Inde, les Ahmadis font face à des situations des plus difficiles. La situation est en train de s'envenimer au Pakistan. La cruauté est en train d'atteindre son paroxysme au Pakistan. Et les mollahs usent de tous moyens et l'État est en train de les soutenir. Ou dans certains endroits, les proposés de l'État profitent de chaque occasion pour tourmenter les Ahmadis. Dans d'autres endroits, dans d'autres pays, il y a des restrictions sur les Ahmadis qui ne peuvent pas prier ou se réunir. Les services de l'État les empêchent de se réunir pour la prière du vendredi ou pour d'autres prières. Mais Allah déclare que dans de telles situations, vous allez devoir renforcer davantage votre foi. Vous allez devoir renforcer davantage votre foi et vous allez devoir embellir vos actions et vous allez devoir aussi rehausser le niveau de vos actes d'adoration. Et vous allez voir qu'Allah va venir à votre aide. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que vous devez essayer de vous purifier. Vous allez rencontrer le pur, c'est-à-dire vous allez rencontrer Dieu lorsque vous-même vous allez vous purifier. Allah est pur et pour connaître Dieu, l'on doit se purifier soi-même. Le Messie premier, alayhi salam, déclare: comment allez-vous recevoir cette grâce? Dieu lui-même a donné cette réponse. Il a déclaré: Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez le secours avec patience et avec la prière. Qu'est-ce la salah? C'est une supplication qu'on adresse à Dieu avec humilité, tout en proclamant sa gloire, en chantant ses louanges, en exaltant sa sainteté et en implorant son pardon et en lui demandant d'envoyer des salutations sur son prophète. Au cours de la salah, ne vous limitez pas aux prières prescrites en arabe seulement, comme le font les gens non avisés. Le Messie premier des salams déclare que vous devez prier dans vos langues maternelles. Il déclare que, mis à part la récitation des versets coraniques qui sont les paroles de Dieu et les prières transmises par la tradition qui sont les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi dans la salah vos propres supplications. Adressez celles-ci à Dieu dans votre langue maternelle avec humilité et soumission, afin que cette impuissance et ces requêtes puissent attendrir vos cœurs et afin que vos cœurs puissent y participer. Lorsque vous allez prier dans vos langues maternelles, ces paroles vont sortir de vos cœurs et cela va générer de l'humilité. Ce sont des paroles qui vont sortir des tréfonds de vos cœurs. Au cours de vos supplications, vous devez générer cette angoisse, cette détresse. Lorsque vous allez agir ainsi, c'est là qu'Allah va exaucer vos prières. Tout comme il déclare: Amma yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu sura wa yaj'alukum khulafa al-ard. Qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal et qui fait de vous et de ceux qui supplient les héritiers de la terre. Cette prière, cette supplication est adressée dans un état de détresse. Ce sont des prières qui apportent des révolutions sur terre. Et qui est plus aimé par Allah que celui qui passe par ses épreuves pour la cause d'Allah? Qui est celui qui est plus aimé par Allah que celui qui subit ses souffrances pour sa cause? Allah a donné cette nouvelle que vous devez faire face à ces adversités avec patience et persévérance. Un jour viendra lorsque vous serez les héritiers de Dieu sur terre. Les Ahmadis sont en train de traverser cette période d'adversité, de souffrance au Pakistan, mais ces sacrifices ne sont pas vains. Ces sacrifices consentis par les Ahmadis porteront leurs fruits. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ces sacrifices porteront leurs fruits. Notre tâche à nous est d'implorer l'aide de Dieu sans prononcer une seule parole de reproche. Ensuite, Allah déclare que l'épreuve ultime et de présenter sa vie pour la cause d'Allah. Mais sachez que la vie sacrifiée pour la cause de Dieu n'est pas comme une vie perdue lors d'un meurtre ordinaire. Au début de l'histoire de l'islam, avant même que les batailles n'ont été imposées aux musulmans, nous voyons plusieurs exemples de sacrifices. Ensuite, durant la deuxième période de l'islam, lorsqu'on a imposé la guerre aux musulmans, nous voyons d'innombrables exemples de sacrifices de croyants, de ces musulmans qui ont été tués et qui ont présenté leur vie. Ces musulmans des deux catégories ont présenté leur vie pour le salut de la religion de Dieu. Ils ont présenté leur vie pour établir l'unicité de Dieu sur terre. Dieu a ensuite accepté leur sacrifice et il a déclaré que ces personnes qui ont présenté l'offrande de leur vie ne sont point mortes. Ces personnes sont vivantes. Ces personnes se sont sacrifiées pour un but important. Et quotidiennement, leur récompense est en train d'augmenter. Et d'autre part, en se souvenant de leur sacrifice, la Jamaat des croyants a maintenu vivant leur nom. Se souvenir des noms des martyrs va garantir la vie de la Jamaat des croyants. En ayant en tête ces exemples, les autres croyants seront aussi prêts à faire tout sacrifice pour la cause d'Allah et ils seront prêts à présenter leur vie. Et quand dans un peuple, certains se sacrifient pour la cause du peuple, eh bien ce peuple ne meurt jamais. Ensuite, quant à ceux qui se sacrifient pour la cause de Dieu, ces personnes jouissent du soutien de Dieu. À l'époque du Messie promis, on a mis fin aux guerres religieuses, aux guerres de la religion. Mais est-ce que cela signifie que personne ne sera tué pour la cause d'Allah? Est-ce que cela signifie que personne n'aura la vie éternelle après avoir été tué pour la cause de Dieu et afin d'accorder la vie aux croyants? Puisque les Akhirines devaient se joindre aux Awadines, certainement il y aura parmi eux certains qui vont présenter l'offrande de leur vie. Et parmi ces Akhirines, au cours du vivant même du Messie premier, l'Islam, certains ont présenté l'offrande de leur vie à Kaboul. En présentant leur vie, ils ont montré la voie pour acquérir cette vie éternelle. Et ensuite, jusqu'à présent, les membres de la Jamaat ont laissé ces exemples de sacrifice pour la cause de Dieu. Et chaque goutte de sang de chaque martyr Ahmadi est en train d'exalter leur statut dans l'au-delà d'une part, et d'autre part, chaque goutte de leur sang génère les moyens pour la vie de la Jamaat. L'ennemi se leurre lorsqu'il croit qu'il peut affecter la foi ou la Jamaat des Ahmadis. Allah déclare que vous ne comprenez pas cela. Ceux qui regardent cela superficiellement ne savent pas que ces révolutions apportées par le Messie premier d'Islam au sein de sa Jamaat, ces pertes de vie et de bien ne vont pas arrêter ces révolutions. Le décret de Dieu est qu'en fin de compte, cette Jamaat aura le dessus et cette Jamaat va établir la foi de Dieu sur terre. Aujourd'hui, tout martyr pour la cause de la Jamaat insuffle une nouvelle vie dans chaque individu, dans chaque Ahmadi, homme, femme, enfant, jeune et vieux. Après chaque martyr, je reçois des lettres des Ahmadis et dans ces lettres, ils expriment leur sincérité et leur fidélité d'une nouvelle façon. C'est à propos de ces personnes que le Messie premier a déclaré que leur sincérité et leur fidélité nous étonnent. l'ennemi se leurre, s'il pense qu'il pourra détourner les Ahmadis de leur foi en les tuant ou en les spoliant de leurs biens. Non, comme je l'ai déclaré, chaque épreuve renforce davantage la foi des Ahmadis. Ils croient peut-être qu'ils pourront anéantir l'Ahmadiyya en raison de leur opposition. C'est là une autre erreur de leur part. En raison des restrictions imposées sur la Jamaat au Pakistan ou dans d'autres pays, les Ahmadis ne peuvent pas prêcher. Mais ces événements concernant la Jamaat ouvre les portes pour le tablir, et nombre de gens m'écrivent directement afin de prêter allégeance. On m'écrit du Pakistan, on m'écrit aussi des pays arabes. Ces oppositions nous poussent donc vers le progrès. L'ennemi peut tuer quelques personnes. Ils peuvent spolier les biens des Ahmadis. Ils peuvent aussi affecter nos édifices. Ils peuvent nous empêcher de construire des mosquées. Mais ils ne pourront point affaiblir notre foi. Car ces épreuves qui sont subis sont autant de signes qu'Allah est avec nous. Nous voyons cela dans le verset suivant où Allah mentionne en détail les pertes qui peuvent être subies et qui donne la bonne nouvelle à ceux qui sont persévérants. Il déclare que vous serez éprouvés par la peur. Si vous faites preuve de patience et de persévérance et si vous implorez Dieu, vous aurez la bonne nouvelle que Dieu va vous accorder des faveurs. Vous aurez peur de subir les assauts de l'ennemi. Vous aurez peur des méfaits des mollahs, le fait qu'on peut vous intenter des procès pour des broutilles. Il y a aussi la loi qui est là pour vous affecter. Il y a aussi les menaces de la part des préposés de l'État. Mais le croyant n'a pas peur de ces bandes. Le croyant n'a pas peur de décisions de ces parlements et il ne rend point vain sa foi et ne faiblit point. Ils peuvent vous éprouver par la faim. On a vu cet exemple à une large échelle en 1974. Nous voyons aussi de tels exemples ici et là. Mais en 1974, on a fait souffrir les Ahmadis et ils avaient imposé des restrictions en disant que personne n'avait le droit d'envoyer de la nourriture aux Ahmadis. Et les Ahmadis n'avaient pas non plus le droit de sortir de leur maison. Ils n'avaient pas le droit non plus d'acheter de quoi à manger des magasins. Et s'ils sortaient, les magasins n'avaient pas le droit de leur vendre de la nourriture. Ensuite, il y a les pertes de biens. Aujourd'hui aussi, les Ahmadis sont en train de perdre leurs biens. On est en train de les spolier de leurs biens et ils usent pour cela de tout moyen. Et si un Ahmadi veut rétablir ses droits par la loi, ils disent que cette personne est un Qadiani et en entendant cela, à savoir qu'il est un Qadiani ou un Ahmadi, les juges ou les préposés concernés ne rétablissent pas les droits des Ahmadis. En 1974, l'État a confisqué une partie du terrain de la Jama'a d'Arabwa et a confié ce terrain aux mollahs. Et là-bas, ils ont bâti la Muslim Colony. Et quelque temps de cela, on a confisqué un terrain agricole appartenant à la Jama'at. Et on a aussi confisqué un autre terrain à Darun Nasr. L'État a déclaré que cet endroit nous appartient. Ensuite, on est éprouvé par ses enfants et on est éprouvé par le fait que l'on doit présenter sa vie. On essaye de détruire les études des enfants. Dans les écoles, les enfants Ahmadis sont la cible des sarcasmes à tel point qu'ils ne veulent plus se présenter à l'école. Cela s'est passé dans le cas d'une école médicale. On avait empêché les Ahmadis d'étudier. Dans une autre région du Pakistan, on a emprisonné quatre enfants Ahmadis et on les a jetés en prison. Si les parents de ces enfants annonçaient qu'ils répudiaient l'Ahmadiyya, ces mêmes plaintes d'outrage au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui seraient retirées immédiatement par les mollahs. Car c'est cela qu'ils voulaient. Ils veulent que les Ahmadis, par peur, se détournent de leur foi. Ce sont là les complots de ces personnes. Ils veulent faire passer les Ahmadis par tout type d'épreuves pour que les Ahmadis se détournent de leur foi. Mais ils ne savent point que les Ahmadis sont les véritables musulmans. Les Ahmadis ont la certitude que chaque parole du Saint-Coran vient de la part de Dieu. Allah a déjà déclaré que vous serez éprouvés par ces brunières. Faites preuve de patience et attendez la fin. Et face à chaque adversité, prononcez ces paroles « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est-à-dire que nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Voilà donc comment doivent agir les Ahmadis. Faites preuve de patience et de persévérance face à ces souffrances. Certes, vous pouvez ressentir la souffrance, mais cette souffrance ne doit point vous faire perdre votre bon sens. Vous ne devez point vous plaindre. Vous devez tout le temps, face à ces épreuves, vous tourner vers Dieu. Après chaque épreuve, vous devez avoir la certitude que certes, c'est là une épreuve, mais cette épreuve est temporaire. Allah va faire en sorte que le résultat soit positif pour moi, Inch'Allah. Après chaque perte, je dois comprendre que ma vie, mes enfants, mes biens sont des choses temporaires, sont des choses éphémères de ce bas monde. Et si je suis en train de sacrifier cela pour la cause d'Allah, j'hériterai davantage des faveurs de Dieu. Lorsqu'on prononce ces paroles « Inna lillah », on doit avoir cette certitude que nous venons de la part d'Allah et que nos biens, nos enfants, sont de la part d'Allah et appartiennent à Allah. Si Allah le veut, il peut reprendre ses grâces qu'il nous a accordées. Et nous n'avons pas le droit de faire des reproches ou de faire des récriminations à ce propos, car nous avons déclaré que « Inna ilayhi raji'un » c'est vers Allah que nous allons retourner. Et lorsque nous allons retourner vers lui, Dieu a promis qu'il va nous accorder davantage dans l'au-delà. Lorsqu'un croyant va penser en ce sens, les pertes qu'il subit peuvent le faire souffrir temporairement, mais cela ne va pas arrêter sa vie. Le Messie premier l'Islam déclare qu'en tant que croyant, vous ne devez rejeter point les épreuves. Seul le croyant imparfait va rejeter des épreuves. Le Saint-Coran déclare « Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Allah déclare que nous allons vous éprouver par les pertes de vie, de récoltes, de biens et d'enfants. Mais quant à ceux qui sont patients face à cette adversité, donne-leur la bonne nouvelle que la porte de la grâce de Dieu est grande ouverte pour eux et qu'ils vont avoir les bénédictions de Dieu lorsqu'ils vont dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est-à-dire que nous et tout ce que nous possédons vient de la part d'Allah et c'est vers lui que tout doit retourner. Aucune perte ne les affecte et ces personnes se contentent du plaisir de Dieu. Ces personnes veulent vivre sous le couvert du plaisir de Dieu. Voilà les personnes qui sont patientes. Et à propos des patients, Allah accorde d'innombrables faveurs. Voilà donc comment doivent réagir les Ahmadis. Et jusqu'à présent, par la grâce d'Allah, les Ahmadis ont réagi ainsi. C'est ainsi que nous allons progresser. C'est là un autre signe de notre progrès. C'est pour cette raison que nous devons tout le temps prier. Certes, nous devons prier pour qu'Allah nous préserve des épreuves et de l'adversité. Dieu a déclaré qu'il faut prier ainsi. Mais si, par décret d'Allah, nous faisons face à une telle situation, la persévérance est la condition la plus importante. C'est cela qui va nous faire mériter d'innombrables faveurs de la part de Dieu. Allah déclare qu'il est avec ceux qui font preuve de patience. Et il déclare à propos des mortiers qui leur accordent la vie éternelle. Et il donne la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Il y a de bonnes nouvelles pour ces personnes, car leur joie est tributaire de la joie de Dieu. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que des épreuves sont subies par les prophètes et par leurs suivants. Il déclare que tout prophète a dû faire face à des épreuves. Jésus, le Messie, a été emprisonné et il a subi nombre d'agonies. Voyez comment Moïse a été traité. Voyez comment on a poursuivi le saint prophète Mohammed B. lui. Mais leur fin a été bonne. Leur fin a été bonne et la conséquence de ces souffrances a été positive. Si, selon la sunna de Dieu, les prophètes devaient vivre dans le confort et que les membres de sa jamaat allaient vivre de pilaf et de zajda, quelle sera la différence entre eux et les gens de ce bas monde? Si les suivants des prophètes devaient vivre dans l'aisance et dans le confort, et s'ils n'allaient pas souffrir, quelle sera la différence entre eux et les gens de ce bas monde? Le Messie déclare qu'il est facile de dire « Alhamdulillah » après avoir consommé du pilaf et du riz sucré. Il est facile de remercier Dieu si l'on vit dans l'aisance. Mais lorsqu'on fait face à des difficultés, et que l'on prononce les mêmes paroles avec les mêmes sentiments, ce sera quelque chose d'autre. C'est lorsqu'on fait face à des difficultés que l'on doit remercier Dieu. Et face aux difficultés, on doit éprouver la même reconnaissance que l'on éprouve lorsque Dieu nous accorde des faveurs. Les prophètes et leur jamaat subissent séismes et épreuves, ils font face à la mort et au danger. Voilà le sens de Kazabou. Et ensuite, grâce à ces épreuves, on éprouve ceux qui ne sont pas encore prêts. Ceux qui ne sont pas encore prêts font des pas que lorsqu'il y a de la facilité. Et lorsqu'il y a des difficultés, ils reculent. Mais quant à ceux qui sont fermes dans leur foi, ils progressent tout le temps. Le Messie, premier l'Islam, déclare que c'est ainsi qu'Allah m'a traité. Tant qu'il n'y a pas d'épreuve, je ne reçois pas de signe de la part d'Allah. L'amour de la part d'Allah signifie qu'Allah doit éprouver ses serviteurs, tout comme il a déclaré. C'est-à-dire qu'on doit faire face à des souffrances et à l'adversité afin qu'ils se tournent vers Dieu. Ceux qui reçoivent les faveurs de Dieu sont ceux qui sont patients et persévérants. L'on tire de la joie des jours d'allégresse, mais en fin de compte, cela ne sert à rien. Si l'on vit une vie d'aisance, en fin de compte, l'on ne maintient plus de relation avec Dieu. Si vous vivez une vie d'aisance, tous les jours, vous n'allez plus maintenir de relation avec Dieu. L'amour de Dieu signifie qu'il doit vous éprouver, et c'est ainsi qu'il montre la grandeur de ses serviteurs. Grâce à ces épreuves, il montre la grandeur et la foi de ses serviteurs. Si, par exemple, Khosrès n'avait pas donné l'ordre de faire arrêter le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il n'aurait pas eu ce miracle de l'assassinat de Khosrès la même nuit. Et si les gens de la Mecque n'avaient pas poussé le saint prophète à l'exil, on n'aurait pas entendu l'appel « Fatahna laka fatran mubina ». Chaque miracle est lié à une épreuve. Une vie de négligence et d'aisance n'a aucun lien avec Allah. S'il n'y a que des succès, il n'y aura plus d'humilité. C'est pour cette raison que l'on doit passer par des moments de souffrance. Allah déclare qu'il est avec ceux qui sont patients et avec ceux qui donnent leur vie pour la cause d'Allah. Et dans le dernier verset, Allah a répété la même chose. Dieu a répété la même chose, c'est-à-dire que ce sont ces personnes qui profitent des bénédictions de Dieu. Et quant à ceux qui sont les héritiers des faveurs de Dieu, voilà ceux qui sont réellement guidés. Dieu a utilisé les paroles « Salawatun mir Rabbihim ». Cela veut dire qu'ils vont profiter des faveurs et des bénédictions de Dieu. Ils vont voir des faveurs qui vont rehausser leur statut spirituel. Salawatum mir Rabbihim ne signifie guère qu'Allah est en train de prier pour eux, mais qu'il est en train d'accorder des faveurs à ses serviteurs. Et lorsqu'on est récipiendaire de faveurs divines, on grandit en statut spirituel et on profite davantage de faveurs spirituelles. Allah comble aussi les pertes de ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour sa cause. Voyez un peu ce qui s'est passé. Les ennemis n'ont pu contraindre ces Ahmadis qui ont consenti à des sacrifices attendre des sébilles pour mentir, et cela en dépit du désir de ses ennemis. Ce sont les oppresseurs des Ahmadis qui tendent leurs sébilles, eux qui ont qualifié les Ahmadis de non-musulmans afin de soutenir la loi et la constitution. Si après ce soutien divin évident, ces gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons que prier qu'Allah leur accorde de la compréhension. Ensuite, à la fin de ce verset, Allah déclare « Ulaika humul muhtadun » ceux qui profitent des faveurs de Dieu, ceux qui profitent de son pardon, sont ceux qui sont réellement guidés dans la bonne direction. Et c'est pour cette raison que ces personnes continuent à progresser. Face à ces difficultés, face à l'adversité, ces personnes sont persévérantes et ces personnes prient. C'est pour cette raison qu'Allah les guide dans la bonne direction. Et c'est pour cette raison qu'Allah leur ouvre de nouvelles voies pour venir le rencontrer. Et ces personnes profitent tout le temps de la proximité de Dieu. Nous devons tout le temps prier qu'Allah protège tout Ahmadi de tout malheur. Mais si, selon le décret de Dieu, quelqu'un doit être éprouvé, qu'Allah fasse qu'il passe cette épreuve tout en étant persévérant et tout en implorant l'aide de Dieu et qu'il nous guide tout le temps. Le Messie premier déclare que lorsque je regarde les souffrances endurées et lorsque je regarde d'autre part les grâces qui m'ont été accordées, grâce dont j'en ai fait l'expérience, je n'ai point d'angoisse car je sais qu'Allah est tout-puissant. Et je sais qu'il protège des malheurs et des tourments. Et lorsqu'il veut que quelqu'un le connaisse davantage, il le fait passer par plus d'épreuves afin qu'il sache qu'il peut du désespoir faire naître l'espoir. Il est donc tout-puissant et miséricordieux. Suite aux épreuves, l'on ne doit pas croire que l'on ne jouit plus des grâces de Dieu, même si l'on fait face à de grands malheurs, même si l'on fait face à de grandes adversités. Les voies de la grâce divine sont toujours ouvertes. On doit toujours espérer la grâce de Dieu. Mais lors de cette épreuve et de cette adversité, la repentance et l'istighfar sont très importants. C'est un point qu'il faut avoir en tête. Si une personne abandonne un de ses péchés lorsqu'elle est frappée d'un malheur, un péché qu'elle ne pouvait point abandonner facilement, ce malheur sera pour elle une grande expiation. Si lors d'une épreuve, l'on arrive à abandonner un de ses péchés en raison de cette épreuve, cette épreuve sera une forme d'expiation. Le Messie premier de l'Islam déclare que suite à ce mouvement, ces ténèbres se transforment en lumière. Lorsque Dieu ouvre nos cœurs en raison de ces épreuves, ces ténèbres qui suivent ces épreuves vont se transformer en lumière. Et ensuite, on aura de l'espoir. Comme je l'ai déclaré, partout, les membres de la Jamaat doivent prier beaucoup. On doit regarder de près ses erreurs et on doit aussi essayer de se rapprocher de Dieu. Ce sont ces efforts individuels qui vont se réunir et qui vont former un bloc et qui vont ensuite monter au ciel. Et lorsque ces efforts vont monter au ciel, ces efforts vont attirer les grâces de Dieu. Qu'Allah donne la possibilité à tous les Ahmadis de prier tout en étant animé de cet esprit. Car en voyant la situation d'aujourd'hui, on dirait que les Ahmadis vont passer par davantage d'épreuves au Pakistan, surtout. Mais ces sots croient que les Ahmadis sont des cibles faciles et qu'ils peuvent détourner l'attention des gens, des troubles, vers les Ahmadis. Et qu'ils croient qu'ainsi ils vont résoudre leurs problèmes. Mais ces sots ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de nuire aux Ahmadis. Sans qu'ils le sachent, ils sont des marionnettes entre les mains de ceux qui veulent détruire le pays. Et ainsi, ils sont en train de nuire au pays. Priez donc pour le Pakistan, qu'Allah fasse miséricorde. Aujourd'hui, après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire d'un martyr Ahmadi, un Ahmadi qui a été assassiné quelques jours auparavant. Son nom est Mohamed Alam Tahir Saheb de Oud Sharif. Son père est M. Hakim Mohamed Afzal. Il a été assassiné le 26 septembre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il retournait d'un mariage de la maison de son frère et il était accompagné de ses enfants. C'était vers 20h30 lorsqu'ils ont passé dans un endroit où il y avait peu d'habitations. Deux individus armés les ont arrêtés. Il était à moto et n'a pas pu maintenir son équilibre. Il est tombé. Sa fille et son enfant sont tombés. Il est allé relever ses enfants, mais ses assaillants se sont rapprochés de lui. Ils lui ont placé le pistolet sur sa tempe, mais il leur a dit de prendre ce qu'ils voulaient prendre et de leur laisser la vie sauve. Mais ils lui ont tiré à bout portant et il est tombé un martyr. Il était un médecin traditionnel et il était très apprécié dans la région où il travaillait. Il avait étudié la médecine traditionnelle, il était un moussi et avait 51 ans. C'était une personne affable et amène, un serviteur de la Jamaat. Il était animé d'un très grand sens de l'hospitalité. Il était régulier dans sa prière. Il était secrétaire des finances de sa région. Il a laissé deux fils et une fille. Il a laissé aussi 5 frères et 5 sœurs. Un de ses frères est un missionnaire. Son père est toujours vivant. Qu'Allah accorde la patience à son épouse et à ses enfants. Et qu'Allah renforce davantage notre foi et notre lien avec Dieu en raison de ces personnes, de ces bien-aimés qui sont en train de tomber à mortir. Qu'Allah fasse que notre relation avec Dieu se renforce davantage. Il y a 2 autres martyrs Ahmadis qui n'ont pas été tués parce qu'ils sont des Ahmadis, mais qui ont été victimes d'actes de terrorisme. Des actes de terrorisme qui sont en train de se généraliser dans ce pays. Et cela va briser le pays en 1000 morceaux. Ces 2 personnes ont donc été victimes de ces actes. Il y a M. Riaz Ahmad et Imtiaz Ahmad, 2 frères. Ils ont été victimes d'un attentat à la bombe tout près d'une banque à Peshawar. Ils passaient sur la route lorsque la bombe a éclaté et ils sont décédés sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier avait 40 ans, il était marié, avait 2 enfants, et le deuxième avait 20 ans. Je vais donc diriger leur prière funéraire. Je vais aussi diriger la prière funéraire d'un ancien président de la Jamaat. Il fut aussi amir de la Jamaat d'ici, M. Anwar Kahlon Saheb. Il est décédé le 27 septembre. Il a vécu ici pendant longtemps. Il fut le président de la Jamaat. Il fut aussi amir de la Jamaat. Il était le président du Qatar Board. Il était aussi amir à Calcutta et à Dhaka. Il était un des membres de la Fazle Omar Foundation. Il était secrétaire de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb et il avait accompagné lors de ses voyages. Et lorsque le quatrième calife est venu ici en 1984, il a travaillé sur la révision de la traduction anglaise du Saint-Coran. Il était fidèle envers le califat et il avait un grand respect pour les Waqfi Zindagi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Il y a aussi la prière funéraire d'une de nos sœurs, Mansoura Wahab Saheba, qui est la fille de Molvi Abdul Wahab Adam Saheb, l'amir de la Jamaat du Ghana, qui est aussi un des premiers missionnaires africains à avoir étudié à la Jamia de Rabwa. Abdul Wahab Saheb est amir et missionnaire en charge de la Jamaat du Ghana. Cette dame est l'épouse de Mohamed Bedou Saheb. Elle souffrait des reins et elle devait subir une transplantation rénale, mais elle est décédée avant cette transplantation. Tel fut le décret de Dieu. Elle avait 28 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vais diriger sa prière funéraire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah accorde la patience à ses parents. Amin.